Alors, dans le quatrième épisode, on va voir les attitudes face au conflit, les sujets et les mécanismes. Donc déjà, il y a une première partie qui parle des signaux faibles ou avant-coureurs du conflit. Ils sont vraiment très nombreux. Du coup, là, il y a toute une liste qui permet un peu de les voir dans le détail. Tous ces signaux faibles ou avant-coureurs, ils vont il faut y être attentif puisque ce sont eux qui vont derrière, s'ils ne sont pas traités, créer la situation de conflit. Ça demande du courage pour regarder ces signaux et agir, mais ça fait partie intégrante de la mission des directions ou des membres d'un collectif ou des représentants du personnel, par exemple. Donc pourquoi on s'y intéresse? Donc c'est parce que justement le pourrissement, c'est la première cause de conflit. Elle va transformer une divergence de point de vue en affrontement entre deux personnes. Et puis aussi parce que si on les observe, on va pouvoir plutôt mettre en place des politiques de prévention plutôt que d'intervenir quand la situation se sera vraiment dégradée. Et puis parce que la temporalité de l'évolution d'un conflit, elle est complexe à gérer. Du coup, là, ça permet de la prendre à temps, entre guillemets. Voilà, ça peut être par exemple traduit par des médiations de projet. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des signaux faibles de conflit autour de genre, la mise en place d'un nouveau projet dans un lieu ou d'une nouvelle créa dans une compagnie, etc. Bon, bah, par exemple, si on voit que ça commence par tout un ensemble de signaux faibles, qu'il y a quelque chose à gérer, on peut mettre en place une médiation de projet, c'est une médiation préventive. Voilà. Les freins à l'alerte concernant les signaux faibles, ça peut être confondu avec de la dénonciation, de l'ingérence, du ragot ou la peur de blesser. Donc le mieux pour y arriver, c'est justement d'avoir un protocole qui précise des chemins d'alerte au sein de l'équipe auxquels se référer. Comme ça, on est sûr de ne pas faire de pas tomber dans ces écueils-là. Et donc, alors, si on veut prendre des exemples de signaux faibles, il y en a vraiment énormément, mais ça peut être la santé d'un collaborateur, de l'addiction, des douleurs, un changement physique, voilà, problème de sommeil. Ça peut être aussi des comportements individuels, agressivité, sarcasme, ironie, déni, démotivation. Comportement blâmeur, critique systématique, des lapsus, enfin bon. Bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'ici, on parle de changement chez une personne dans son comportement, par rapport à son comportement habituel. Les signaux faibles, ils peuvent aussi concerner plutôt une dynamique d'équipe, avec la constitution de clans, enfin, en termes de groupes affinitaires. Le fait de reporter la responsabilité sur les autres, de la baisse de l'informel et de la convivialité, l'exclusion ou au contraire de l'isolement, des rumeurs, des jugements systématiques, voilà. Ça peut avoir les signaux faibles, ça peut être aussi sur l'activité, une accumulation de retard, des dysfonctionnements, aussi sur les protocoles de travail, on transgresse les règles. Sur les compétences, des résultats en baisse, des erreurs, des maladresses, des confusions, des oublis. Sur le rythme, beaucoup d'absentéisme, des absences répétées, du temps passé en pause, un déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Voilà, ou sur la façon de s'adresser. Sur des conversations en boucle, on ne peut plus rien dire, la multiplicité de signaux de retour sur un sujet, le champ lexical employé, etc. Donc vraiment les signaux faibles, ça peut être à plein d'endroits. J'ai l'impression qu'à chaque fois, comment ça va plutôt vers des attitudes négatives à travers tout ça et sur des changements d'attitude, quoi. Voilà. Ensuite, on voyait un peu le cheminement d'un conflit un peu type. Du coup, il y a un événement déclencheur. Il y a la perception de cet événement. Il y a la réaction de l'autre et des autres par rapport à à la perception qu'ils en ont eue. Là, il y a le désaccord. Suite au désaccord, il y a la construction de certitude de part et d'autre. Et là émerge le conflit. Donc on peut imaginer que le signe faible, c'est surtout les étapes entre l'événement déclencheur et le développement du conflit. Voilà, et puis là, il y a un document qui parle de toutes les principales sources de conflits au travail. Il faut savoir qu'il y en a énormément. Ça fait référence un peu au premier épisode où on disait que aussi le travail, c'est un endroit maintenant où s'additionne tout un tas d'enjeux qui démultiplient les possibilités de conflit. Donc là, elles sont répertoriées en quatre grandes catégories, relationnelles, organisationnelles, institutionnelles et contextuelles. Donc contextuel, ça va être tout ce qui est lié au social, temporel, historique, sociologique. Donc, lié aux enjeux sociétaux de l'époque, on prenait les exemples de, j'en sais rien, son rapport à l'environnement au sein de la boîte ou au sein de la compagnie, les questions générationnelles, le rapport au genre, à comment elles sont prises en compte dans une équipe, au vocabulaire utilisé, voilà, aux propos même artistiques, enfin bon. Donc ça, c'est vraiment contextuel. Après, dans le relationnel, ça va être évidemment tous les comportements, les projections, les différences sociales et culturelles et leurs éventuels rapports de domination ou mépris, la confusion entre socialité primaire et secondaire, c'est-à-dire entre une confusion entre un conflit de personne à personne au lieu d'un conflit qui serait d'une fonction à une fonction. Il y a un conflit pendant la créa entre leur rôle de metteur en scène et le rôle d'interprète qui n'est pas à mélanger avec un conflit qui serait personnalisé, interpersonnel, mais bien celui de la dynamique entre les deux fonctions. Dans les sources de conflits organisationnels, il y a la question du statut de chacun chacune et de leur pouvoir, la question des protocoles, de la qualité et de l'exigence et de la charge de travail. Et puis sur les possibilités de conflits institutionnels, ça va être tout ce qui est en lien avec les objectifs et le sens et l'articulation entre les objectifs et les moyens. Voilà. Fait sur le sujet du conflit et de leur complexité, on a vu beaucoup de choses, mais que je trouve assez difficile à retranscrire. Ce que je peux retranscrire que j'ai trouvé intéressant, c'est quand on que les sources de conflit, elles peuvent aussi beaucoup émerger face au changement, puisque le changement, voilà, est quelque chose qui déstabilise et qui peut faire peur. Enfin, donc, il y a eu un diagramme qui a été théorisé par Elisabeth Kübler-Ross, psychiatre, sur les étapes d'un deuil face au changement, a priori par lesquelles on passerait tous et toutes, mais à des vitesses et à des rythmes plus ou moins rapides. Suite à l'annonce, il y aurait l'étape du refus de comprendre, donc vers de la satisfaction moins, un rejet total en fait, qui passera ensuite par de la résistance, de la révolte, de l'argumentation, puis par de la décompression. Donc là, on tombe dans tristesse, absence de ressort, désespoir, dépression. Bon, c'est des mots forts, mais ils sont à adapter en fonction de la taille du changement, et du deuil et du changement. Et puis, en fait, la courbe commence à remonter vers de la résignation. Donc là, c'est absence d'enthousiasme et de conviction, attitude dubitative, nostalgie de ce qui était. Et pour remonter vers l'intégration, changement accepté, pas de nostalgie, changement plus considéré comme tel, action de soutien. Donc le processus prend du temps, chaque étape est différente selon les personnes. Et il faut accompagner le changement de certitude pour aller vers l'acceptation. Moins, plus le changement sera incertain, plus moins il y a de chances qu'il soit bien, bien vécu. Voilà. Bon, voilà. Aussi sur l'approche systémique du conflit, il y a deux types de logique. Il y a la logique analytique et la logique systémique. Donc la logique analytique, c'est en gros le but est la recherche des causes pardon, du conflit. Donc on voit un œil qui regarde le problème. Derrière, on voit l'objectif qui est masqué par le problème. Et en fait, il y a une flèche qui revient en arrière de l'œil et qui pose la question à cause de quoi, à cause de qui. Donc ça, c'est une logique analytique. Et puis, il y a la logique systémique. Donc, il y a l'œil qui regarde le problème, il y a l'objectif derrière le problème qui est masqué par le problème. Et là, l'idée, c'est de clarifier l'objectif masqué. À quoi parviendrait-on si le problème était résolu? Voilà, donc c'est deux logiques aussi qui peuvent être mises en travail. Et puis, on a aussi vu les différentes attitudes face au conflit. Donc, en gros, elles sont répertoriées en cinq catégories, sachant qu'elles peuvent varier. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout le temps les mêmes, on prend pas tout le temps les mêmes attitudes en fonction des situations, du contexte, des gens autour de la table. Voilà. Mais on va avoir en tout cas des tendances. Et donc là, on est sur un, comment ça s'appelle? Bon, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais en tout cas sur un schéma avec deux flèches. La flèche qui va vers le haut, c'est la motivation à rencontrer ses intérêts. Et la flèche du bas, c'est la motivation à coopérer. Donc on est sur, plus la courbe monte, plus on rencontre ses intérêts tout en étant dans un mode coopératif. Donc, les modes les moins coopératifs, ce sont les modes compétitifs ou fuyants. Donc, le mode compétitif, ça va être non coopératif, mais en faisant face à l'autre. Mais là, l'idée, c'est face au conflit, je souhaite concurrencer, rivaliser, c'est ma solution. Donc, on est sur une résultante qui serait satisfaisante pour la personne et insatisfaisante pour l'autre. On veut gagner, entre guillemets, sa solution, sa vision de, enfin, sans tenir compte celle de l'autre. Et la moins coopérative dans un absence de face-à-face, c'est l'attitude fuyante. Et donc là, c'est l'évitement, le repli. Et donc, en fait, on est sur une situation où on ne trouve pas de solution. Et du coup, c'est insatisfaisant autant pour l'un que pour l'autre. Voilà. Au milieu de ça, il y a l'attitude conciliante, donc qui va être un peu à mi-chemin entre l'attitude non coopérative et coopérative, et puis à mi-chemin entre le face-à-face et l'absence de face-à-face. Voilà, c'est un recherche de compromis, un entre-deux, mais du coup qui satisfait un peu et qui insatisfait un peu. Donc c'est ce qu'on va éviter justement en médiation pour pas tomber dans l'écueil de justement la médiation, c'est quelque chose qui, voilà, un peu neutre, un peu mou. Voilà, c'est pas l'idée. Et puis après, il y a aussi donc dans un mode coopératif, mais où on n'y retrouve pas trop ses billes, c'est l'attitude accommodante. Là, donc c'est quand on laisse la place à l'autre, on cède à la solution de l'autre. Donc, bah, nous, on est insatisfait, mais l'autre est satisfait. Mais voilà, on se dit, bon, bah, c'est comme ça. Mais Ouais, c'est pas très satisfaisant. Surtout si c'est fait de mauvais gré et que derrière ça alimente des rancœurs. Et puis donc l'attitude la plus favorable, c'est l'attitude collaborative et créative. Donc le mot créatif, il est hyper important dans la formation. On l'a vu plein de fois. C'est vraiment l'idée de trouver, de créer de nouveaux imaginaires, de nouveaux possibles, qui va permettre de, bah, en fait, d'agrandir le plus l'éventail des solutions et du coup d'en trouver une qui puisse convenir dans un résultat satisfaisant. Et donc, voilà, là on a à la fois, on va le plus à la rencontre de nos intérêts, mais dans un mode le plus coopératif possible. Et donc on cherche à résoudre notre solution globale.